Un des textes proposés par la mission Portes Ouvertes pour ce jour, et c'est un extrait de la lettre de Paul aux Corinthiens, la deuxième, que j'aimerais vous lire maintenant. C'est au chapitre 12 et au verset 9 et 10. Je dirais la dernière partie du verset 9 et puis le verset 10. Un tout petit paragraphe et qui, je pense, même à nous, pourra nous parler, même si nous ne sommes pas sous la persécution. Je mettrai donc bien plus volontiers ma fierté dans mes faiblesses, pour que la puissance du Christ repose sur moi. Aussi, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les désarrois, dans les persécutions et les angoisses pour le Christ. En effet, c'est quand je suis faible que je suis fort. Alors voilà, c'est quand je suis faible que je suis fort. Là, on ne comprend plus du tout ce que Paul raconte. À moins que. La deuxième lettre aux Corinthiens est une lettre dans laquelle Paul fait face à des opposants, à des gens qui sont des forts à bras de l'Évangile, des gens qui ont quelque chose à prouver, qui veulent s'imposer et qui regardent Paul de haut, parce qu'ils sont, soi-disant, meilleur que lui, plus fort, plus intelligent, plus instruit, plus inspiré, plus je ne sais ce que vous pourrez rajouter. Et Paul va se défendre. Il va justifier son apostolat, il va dire que personne plus que lui n'a souffert sur les chemins du bassin méditerranéen pour annoncer l'Évangile, et qu'il n'a rien à apprendre, il n'a aucune leçon à recevoir de ces super apôtres qui veulent lui faire la leçon. Paul va sur leur terrain, donc on voit ça au chapitre 11, au chapitre qui précède le nôtre, quand il dit « S'il fallait faire le fier, j'aurais de quoi ?» J'aurais de quoi ? Et là, le voilà qui déroule son curriculum vitae, si je puis dire, et toutes ces aventures qu'il a vécues. Et puis il termine en disant « S'il faut faire le fier, c'est le verset 30. » S'il faut faire le fier, c'est de ma faiblesse que je ferai ma fierté. Et il prend à contre-pied ces hommes qui bombent le torse en prétendant être meilleurs que les autres. Paul, lui, va se vanter, non pas de sa force, alors qu'il pourrait, mais de sa faiblesse. Pourquoi ? Parce que c'est quand il reconnaît cette faiblesse qu'il reçoit toute la force de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, quand je suis faible, c'est là que je suis fort, de la force de Dieu que je laisse entrer en moi. Paul avoue sa faiblesse, et même, il la revendique. Contrairement au fort à bras de l'Évangile, comme j'ai dit, il se sait faible devant les défis. Il ne veut pas que les chrétiens aient une trop haute opinion de lui. Il a même peur de son propre orgueil, puisqu'il dit pour que j'évite, c'est toujours dans le chapitre, non maintenant c'est dans le chapitre 12, puisqu'il dit que, c'est au verset 7, pour que je ne sois pas trop orgueilleux, il m'a été donné une écharde dans la chair. Alors les théologiens se sont interrogés pendant des siècles sur cette écharde, ils se sont dit mais qu'est-ce qu'il avait Paul, on ne sait pas trop, alors, bref, en tout cas il était malade. Il avait de la faiblesse en lui. Et il interprète cette faiblesse comme étant une arme contre l'orgueil. Cette écharde dans son corps, cet ange de Satan, pour le frapper et l'empêcher de sombrer dans l'orgueil. Alors non, Paul ne va pas céder à ce même état d'esprit que celui que ses opposants avaient, c'est-à-dire chercher à être le plus. Lui, il dit, moi je suis le moins. Et même Dieu a besoin de me discipliner pour que je reste conscient de ma limite, de mes limites, de ma petitesse. Mais c'est là que je suis apôtre de Dieu. C'est là que je reçois la force de Dieu. C'est quand j'ouvre les portes à sa puissance. Est-ce que nous imitons Paul dans notre vie à nous ? Est-ce que nous disons, notre église n'est pas forcément la plus grande, la plus belle, la plus forte. Moi, je ne suis pas forcément le chrétien le plus grand. Bon, ça, du point de vue de la taille, j'avais déjà remarqué. Mais pour le reste aussi. Je ne suis pas le chrétien le plus beau. Oui, ça aussi. Le plus spirituel. Ce n'est pas ça qui va compter dans la bouche, enfin plutôt sous la plume de Paul. Ça va être quelle place tu laisses à Dieu dans ta vie. Quelle place tu laisses à la puissance de vie, de paix que Dieu te donne dans ta vie. Est-ce que tu vas aligner les performances? Est-ce que tu vas aligner les efforts? Ou est-ce qu'à un moment donné, tu vas dire, bon, je veux bien te servir, Seigneur, mais c'est quand même avec tes forces, avec la communion avec toi, c'est en restant disponible pour l'action de ton esprit dans ma vie, c'est en restant ouvert à ta puissance dans ma vie, à ce que tu vas me dire au fond de mon cœur, à ta parole de vie qui va m'édifier, qui va me renouveler. Les Corinthiens avaient besoin de cet aveu. Les Corinthiens avaient besoin d'un vrai homme en chair et en os. Ils n'avaient pas besoin des super apôtres qui se prétendaient en granit, en je ne sais quelle pierre indestructible. Ils avaient besoin d'un homme avec ses doutes, avec ses luttes, avec ses échecs, avec ses réussites, avec ses souffrances, avec ses limites, mais d'un homme qui porte Dieu dans son cœur et qui laisse Dieu agir dans son cœur, dans sa vie. Paul se fait tout simplement devant les Corinthiens, au lieu de faire une façade d'homme très fort, il se fait tellement plus proche d'eux. Parce qu'en disant ce qu'il dit de sa propre vie, il leur donne le droit à ces Corinthiens et à nous aussi d'être conscients de nos limites, de notre petitesse, de nos efforts ratés, de ce qu'on réussit aussi, et tout ça à l'aune de la grâce du Dieu vivant, et non pas en comptabilisant nos réussites. Nous sommes des gens normaux, n'est-ce pas? Enfin, vous, je ne sais pas, mais moi, j'ai l'impression d'être assez basique dans la société actuelle. Donc, c'est pas antinomique avec le fait d'être un, c'est pas contraire avec le fait d'être un bon chrétien ou une bonne chrétienne, d'être quelqu'un d'ordinaire. Parce que l'apôtre Paul lui-même, qui était un grand missionnaire quand même, vous avez déjà lu ses lettres, c'est pas de la littérature de roman de gare ce qu'il écrit, c'est quand même du costaud. Et Paul, il dit « je suis faible ». Si Paul a eu cette approche de la vie chrétienne, de la vie qu'un chrétien peut mener dans ce monde, mais on est avec lui. Parce que nous sommes des gens ordinaires, nous sommes des gens avec des limites, etc. Mais en nous aussi, la puissance de Dieu, l'évangile de Dieu, la grâce de Dieu peut aussi agir. Dieu peut nous parler, Dieu peut nous remplir du bienfait de sa présence, Dieu peut nous faire du bien. Alors les chrétiens, dans les pays persécutés, peuvent lire ce texte plus intensément que nous encore. Parce que Paul parle ici de la persécution et des angoisses. Et il dit quelque chose de quand même étonnant, quoi. Je me plais dans les faiblesses, les outrages, les désarrois, dans les persécutions, les angoisses. C'est quand même un peu fort ce qu'il écrit, vous ne trouvez pas? On dirait ça, nous? Ah, chouette, hier on m'a insulté pour ma foi, c'était génial. Ça sonne un peu outrancier ce qu'il écrit là. Il ne faut pas oublier que Paul est dans une diatribe, dans une opposition avec des gens qui veulent prendre sa place. Et Paul est dans une, il utilise un ton polémique. Il veut enfoncer le clou. Mais il n'y a pas non plus un genre de dolorisme, vous savez, où on trouve cette idée selon laquelle on trouve à la souffrance une valeur en soi. Chouette, je vais souffrir. Non, c'est pas ça. C'est si je souffre, c'est là le lieu de la puissance de Dieu. Donc oui, je me plais dans ce qui va faire la place à la puissance de Dieu dans ma vie. Pas la puissance en elle, la souffrance en elle-même, pas les désarrois en eux-mêmes, les outrages. Ça ne fait plaisir à personne, en fait, d'être outragé, d'être insulté, d'être ridiculisé, d'être mis au banc de la société. Ça ne fait plaisir à personne. Mais si nous arrivons, et nos frères et sœurs en Christ, dans les pays de persécution, arrivent à faire de ces souffrances-là le lieu où Dieu va exercer sa puissance, alors on peut rejoindre Paul qui dit, qui a osé dire « je me plais dans les faiblesses ». Et au lieu de se considérer comme abandonné par Dieu, finalement, c'est quand même un peu ça. Quelqu'un qui dans un pays où il est risqué d'afficher sa foi, quelqu'un qui affiche sa foi, qui fait part, qui témoigne de sa foi, prend des risques, et nous pourrions nous tourner vers Dieu en disant « bah dis donc Seigneur quand même, des gens se manifestent pour ta gloire, et toi tu les laisses croupir dans des prisons, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? T'as oublié, tu les as pas entendus ?» Paul ne raisonne pas comme ça, vous avez remarqué. Paul, il dit que la persécution est le lieu où il est faible et donc il est fort de la force de Dieu. C'est juste après hein, cette petite liste malheureuse hein, du désarroi, des persécutions, qu'il écrit « En effet, c'est quand je suis faible de toutes ces choses que je suis fort de la force de Dieu. » C'est là qu'on est au creuset, qu'on peut éliminer les choses qui nous encombraient. C'est là où on peut revenir, trouver, rester à l'essentiel de nos vies. Qu'est-ce qui finalement compte vraiment dans ta vie ? À vrai dire, Paul rappelle ici l'essence de la foi chrétienne. Comment tu es devenu chrétien, toi ? Tout d'un coup, tu as dit « Seigneur, me voici, tu es content de me voir ? Je suis quelqu'un de formidable, heureusement que je rejoins ton église, sinon ce serait nul. » C'est comme ça qu'on est devenu chrétien ? S'il y a quelqu'un qui dit oui, faut qu'on parle. Hein. Paul rappelle l'essence de la foi chrétienne qui est reconnaître notre faiblesse devant Dieu, devant la tentation du mal, devant nos envies malsaines, devant le péché, d'accueillir la grâce de Dieu avec reconnaissance et reconnaître notre besoin de sa grâce, de son pardon. Et la chose qui compte dans notre vie de disciple, c'est non nos mérites, ce que j'ai caricaturé il y a un instant, mais c'est cet accueil du pardon de Dieu, cet accueil du Dieu qui te dit « Allez Jean-Marc, c'était pas bien ce que tu as fait, mais maintenant tu m'as demandé pardon, je te pardonne, et on redémarre à zéro. » C'est ça dont on a besoin, c'est ça qui fait de nous des chrétiennes et des chrétiens qui avancent, qui grandissent. Est-ce que nous sommes en paix, nous ? Tant mieux, en tant qu'Église. Notre Église a de beaux bâtiments. Tant mieux, super. Nous sommes en bonne santé financière, formidable. Mais ce n'est pas ça qui fait de nous ce que nous sommes. Ce qui fait de nous ce que nous sommes, c'est l'action de Dieu dans ta vie et dans ma vie. Ce n'est pas ça qui fait de nous une belle Église. Ce qui fait de nous une belle Église, si nous en sommes une, c'est l'action de Dieu dans nos rangs. La sécurité matérielle pourrait même nous faire oublier l'essentiel de notre foi. Et comme l'apôtre Paul qui avait un problème de santé mystérieux, hein, cette fameuse écharde dans la chair, nous pourrions nous avoir parfois des difficultés à affronter, des choses difficiles en tant qu'Église. Et quel sera notre réflexe ? Nous dirons « revenons ». À l'essentiel, parce que nous avons eu le tort d'oublier que ce qui fait ce que nous sommes en tant que communauté, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas nos mérites. Même si, la grâce de Dieu s'accompagne de notre engagement, de notre service. Paul en arrive même donc à se plaire dans les faiblesses, les outrages, le désarroi, la persécution, les angoisses. Nous prions Dieu avec raison, je pense, de nous éviter ces circonstances-là. Mais nos frères et sœurs qui n'ont pas pu éviter les persécutions nous donnent un exemple et nous rappellent ce qui est essentiel dans une vie de communauté, dans une vie chrétienne. Alors il ne s'agit pas, encore une fois, d'accumuler des souffrances comme si elles étaient méritoires, comme si elles allaient nous faire mieux voir par Dieu. Une certaine théologie chrétienne qui valorise ainsi les souffrances, je ne crois pas. Les souffrances qui nous réconcilient avec Dieu, c'est celle de Christ, qui a payé le prix de nos péchés à notre place. La souffrance n'est pas non plus une vertu en elle-même. Vivons donc cette porte ouverte à la puissance de Dieu dans nos situations, même si elles sont favorables. N'attendons pas d'avoir quelque chose de contraire qui nous donne un petit électrochoc pour dire confions-nous en Seigneur et mettons la grâce de Dieu au centre de notre vie d'Église et de notre vie de chrétien. Nous avons tout intérêt à laisser Dieu nous renouveler de l'intérieur, nous donner une paix, un contentement, une solidité que lui seul peut donner. S'il faut faire valoir quelque chose, comme Paul le dit pour lui-même, c'est ça. Les chrétiens persécutés pour leur foi ont choisi de rester dans cette faiblesse. Ils pourraient abjurer, abandonner leur foi pour l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, l'athéisme. Et ils auraient la sécurité matérielle. Ils pourraient réussir leurs études. Je fais allusion au témoignage des étudiants de Chine. Ils pourraient avoir une retraite. Tout irait bien. Ce serait tellement plus simple de dire « je suis athée ». Mais ils choisissent la faiblesse. Parce que c'est là que va s'exercer la force de Dieu. C'est là qu'ils vont être heureux. C'est là où ils vont construire une vie belle et une vie qui vaut la peine d'être vécue. Derrière Paul, qui a dit cela, cette phrase, c'est dans « quand je suis faible, que je suis fort », derrière l'apôtre Paul, à sa suite, glorieuse, il préfère rester fidèle à Christ et faire de leur faiblesse le lieu de sa puissance. Nous ici, à Mulhouse, ne jouons donc pas à celui qui sera le plus fort. C'est le texte d'un Corinthiens 12. Ne jouons donc pas à l'Église la plus grande, aux prédications les plus inspirées, aux activités les plus développées. Parmi nous, ne jouons donc plus au plus fort, à celle qui est la plus méritante, à celui qui en fait le plus. Ce qui compte, c'est le bien que Dieu nous fait, à commencer par son pardon, puis par son esprit, puis par la Bible que nous pouvons lire et qui nous enseigne. Que notre Église soit tout simplement le lieu où la puissance de Christ repose. Verset 9, « Ma grâce te suffit et ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je mettrai donc bien plus volontiers ma fierté dans mes faiblesses pour que la puissance du Christ repose sur moi. » Est-ce que nous avons envie que la puissance de Christ repose sur notre Église? Je suppose que oui. Sachons le lui demander. Nous avons ce mois-ci, le thème du mois, c'est la prière en commun, la prière en public, ce que nous vivons ce matin. Demandons à Dieu, ensemble, que la puissance du Christ repose sur notre Église et que ce soit cette puissance-là que nous laissons agir. Marquons notre dépendance, notre confiance en Dieu. Et puis après avoir dit tout ça, soyons courageux, levons-nous, agissons. Car même si nous sommes faibles, Christ, lui, est fort. Même si nous ne sommes pas assez nombreux pour ceci ou pour cela, Christ, lui, est là. Même si nos moyens sont limités, Christ, lui, n'a pas de limite. Soyons témoins, soyons actifs, parce que Christ est en vie, qu'il est vainqueur de la mort, qu'il est libérateur du péché, qu'il est garant de notre avenir, et qu'il est capable de nous pardonner. Les églises des pays de persécution nous donnent cette leçon. L'essentiel, c'est la restauration intérieure et l'avenir éternel en Jésus-Christ. Ne donnons pas à ces églises, lorsqu'elles entendent parler de nous, la funeste image d'églises intéressées avant tout par leur propre réussite. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une église qui réussit? Et je terminerai par là. Comment définir une église qui réussit? Question difficile. Je n'ai pas la réponse, en fait. C'est malin. Qu'est-ce qu'une église qui réussit? Est-ce que c'est une église dont on ne détruit pas les bâtiments à coups de bulldozer? Est-ce que c'est une église dont on n'arrête pas les responsables? Est-ce que c'est ça, une église qui réussit? Non. Une église qui réussit, c'est celle qui témoigne de Christ, quelles que soient les circonstances. Nos circonstances sont favorables, témoignons de Christ. Nos circonstances deviendront peut-être un jour moins favorables, témoignant de Christ. Une Église qui réussit, c'est ça. Je vous invite à prier. Nous te louons, Seigneur, et nous te prions ensemble que ta puissance repose sur nous. Nous te prions de nous garder de l'orgueil, comme Paul l'a écrit pour lui-même, de nous garder de nous concurrencer les uns les autres, que ce soit entre chrétiennes ou chrétiens ou entre églises, que notre préoccupation ne soit pas d'être plus que l'un ou moins que l'autre, que notre préoccupation soit de te laisser la place dans nos vies, d'être à l'écoute de la Bible, de nous laisser influencer par ton Saint-Esprit, d'imiter l'exemple de Christ, que ce soit cela qui soit important pour nous. Et Seigneur, nous te prions pour que notre Église, nos vies, soient des témoignages à ta gloire. Et c'est là que nous réussirons et que nous réussissons déjà. Seigneur, bénis-nous, bénis ta puissance, ta grâce, ta vie en chacun de nous et dans notre Église. Amen.